Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Notre exploration des fonds et des bas-fonds de la finance se poursuit. Après avoir accompagné les petits épargnants sur les marchés boursiers, ce sont les fonds activistes que nous allons passer au crible. Des fonds qui s'invitent dans le capital des sociétés pour en modifier la stratégie ou la gouvernance. Ils s'appellent Third Point, Elliott ou encore Muddy Waters et l'Europe semble être leur nouveau terrain de chasse. Des pratiques qui se rapprochent de celles des fonds vautours, ces prédateurs des États et des entreprises en faillite. Des mécanismes que l'on peine à identifier mais surtout à encadrer. Il est 14h sur France Culture, l'heure d'entendre l'écho de la bourse. Nous allons parler des fonds spéculatifs en compagnie de Gunther Cappel-Blancard, économiste, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en compagnie également de Muriel Goldberg-Darmon, docteur en droit, avocate associée au cabinet Cohen & Gresser. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Gunther Cappel-Blancard et Muriel Goldberg-Darmon.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va commencer non pas avec le Zola de l'affaire Dreyfus, mais avec celui de l'argent, roman sorti en 1891.
Depuis 20 ans, Buch occupait tout en haut, au cinquième étage, un étroit logement composé de deux chambres et d'une cuisine. Une de ses grosses affaires était bien le trafic sur les valeurs dépréciées. Il les centralisait. Il servait d'intermédiaire entre la petite bourse des pieds humides et les banques routières qui ont des trous à combler dans leur bilan. Aussi suivait-il les cours, achetant directement, parfois, alimenté surtout par les stocks qu'on lui apportait. Mais, outre l'usure et tout un commerce caché sur les bijoux et les pierres précieuses, il s'occupait particulièrement de l'achat des créances. C'était là ce qui emplissait son cabinet à en faire craquer les murs, ce qui le lançait dans Paris, aux quatre coins, flairant, guettant, avec des intelligences dans tous les mondes. Dès qu'il apprenait une faillite, il accourait, rôdait autour du syndic, finissait par acheter tout ce dont on ne pouvait rien tirer de bon immédiatement. Il surveillait les études de notaire, attendait les ouvertures de succession difficiles, assistait aux adjudications des créances désespérées. Lui-même publiait des annonces, attirer les créanciers impatients, qui aimaient mieux toucher quelques sous tout de suite que de courir le risque de poursuivre leurs débiteurs.
Un extrait lu par notre réalisateur Philippe Baudouin. Gunther Cappel-Blancard, que vous inspire d'abord ce texte de Zola qui décrit déjà les mécanismes spéculatifs de cette seconde moitié du 19e siècle ?
Eh bien, effectivement, ce texte est important parce qu'il nous montre que les pratiques qui sont en œuvre aujourd'hui existent depuis très longtemps. L'exemple insiste sur l'échange de créances. Hein. On retrouve ça aussi dans beaucoup de films de gangsters où vous êtes dans la capacité de récupérer votre mise et donc vous allez revendre, parce que c'est bien le terme, hein, vous revendez vos créances à quelqu'un de plus méchant qui saura lui récupérer l'argent dû. Donc ça existe depuis très longtemps, on n'a pas attendu la financiarisation de l'économie pour voir ce type de pratique, mais aujourd'hui c'est institutionnalisé. On a des fonds qui vont spécifiquement rechercher des créances dépréciées. Ça se fait beaucoup sur les emprunts d'État, des États qui sont dans l'incapacité de rembourser, ces investisseurs vont justement essayer d'en retirer un maximum.
Alors on va faire tout un travail de définition pour différencier ces différents fonds spéculatifs, mais un premier mot d'abord, Muriel Goldberg-Darmon, sur cet extrait de l'argent de Zola qui aurait pu s'appeler la bourse.
Alors heureusement, la bourse n'est pas que ça. Heureusement aussi, la bourse, ce sont des belles valeurs et ce sont des opportunités pour des investisseurs et notamment les fonds activistes qui font l'objet de cette émission, d'investir et de créer de la valeur et non pas, comme on le dit souvent facilement, de déprécier les sociétés. Je pense qu'il faut vraiment différencier les typologies d'activisme et rappeler quand même pour le côté positif qu'un actionnaire activiste, quand il fait monter la valeur de l'action, il le fait monter pour tous les actionnaires, quels que soient ses actionnaires et pas seulement pour lui.
Alors justement, on va définir ce qu'est un fonds activiste. Ce qui est intéressant, Gunther Cappel-Blanquart, c'est de voir qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces fonds activistes, de la nécessité de les réguler, alors qu'il y a quelques années, on parlait davantage de ces fonds vautours qui spéculent sur les dettes des États, des entreprises. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, de l'influence qu'ont pris ces fonds activistes, que je vous laisserai définir, Gunther Cappel-Blanquart?
Les pratiques sont un peu les mêmes. On parle de fonds vautours quand il s'agit de racheter de la dette dépréciée et plutôt de fonds activistes quand il s'agit de titres de propriété, d'actions sur un marché boursier. Donc dans un cas, dans le premier cas, ça vise plutôt les États, dans l'autre cas, ça vise plutôt les entreprises, mais le schéma est un peu de chose près le même. Il s'agit de racheter à bas prix des titres pour essayer d'en extraire un maximum de profit.
Et alors ces fonds activistes sont d'abord apparus aux États-Unis?
Oui, parce que c'est là où la finance se déploie le plus facilement, mais l'extrait de Zola montre que ça existe partout.
Et alors on parle parfois d'activisme actionnarial et on peut se demander, Gunther Cappel-Blanquart, comment un fonds d'investissement devient spéculatif? Vous avez parlé d'une institutionnalisation de ces fonds spéculatifs. Qu'est-ce qui provoque cette évolution?
Alors, les fonds rachètent, ces fonds activistes vont racheter donc des actions. Quand vous rachetez une action, vous devenez propriétaire, copropriétaire de l'entreprise. Et à ce titre, vous avez droit au profit de l'entreprise, mais vous avez aussi un droit de regard sur la politique, sur la gouvernance de l'entreprise. Et donc ces fonds activistes rachètent des actions en bourse, rachètent des entreprises pour y exercer leur pouvoir. De quelle manière? C'est ce qui était dit tout à l'heure, d'une manière plutôt bonne pour la société ou plutôt mauvaise, ça se discute. Mais le droit des actionnaires à exercer leur politique, c'est un droit qui est fondamental sur les marchés boursiers.
Ce qu'on constate tout de même, c'est que depuis, disons, la fin des années 2000, ces fonds activistes interviennent de plus en plus en Europe. Et alors, on peut se demander d'abord pourquoi, Muriel Goldberg-Damon, et aussi si c'est finalement ces offensives, c'est parfois le mot utilisé, de ces fonds activistes sont finalement plus nombreuses qu'on ne le pense, parce qu'au fond, un certain nombre d'entre elles ne sont pas rendues publiques.
Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'image qu'on a de l'activisme en France, c'est uniquement les grands dossiers de place qui font l'objet d'une communication extrêmement importante. Il faut bien voir que l'entrée d'un fonds activiste, selon la typologie des fonds, on y reviendra, se fait de manière progressive. Comme on l'évoquait, il y a les fonds vautours, que moi je qualifierais d'un point de vue purement opération de marché, des fonds qui prennent des positions justes pour négocier un prix. Et c'est le cas classique d'un fonds qui prend une minorité de blocage dans une société cotée pour l'empêcher notamment de sortir de la cote. Maintenant, ça c'est un cas, on va dire, relativement spécifique. Je pense que ce à quoi vous faites allusion et qui défraient la chronique de façon récurrente ces derniers temps sont plutôt des fonds long terme, qui ont une vraie politique d'investissement et d'influence, comme évoqué par Gunther, sur la gouvernance, la stratégie de la société. Mais aujourd'hui, ils ont une vision d'accroissement de la valeur. C'est là où je reviens encore sur ce sujet-là.
Grosso modo, ce n'est pas un phénomène si répandu que ça, mais c'est un phénomène très médiatisé. Parce que la pression est très forte et que les entreprises sont très connues. Et que les enjeux sont très forts. Capitalisation de la boîte, donc valorisation de l'entreprise, ou des enjeux sociaux. Casino, c'est 200 000 emplois ou quelque chose comme ça dans le monde. Et en France, ça doit être, je sais pas, une centaine de milliers d'emplois. Donc il y a une incidence financière, mais il peut y avoir aussi une incidence sociale à l'action d'un activiste. Est-ce que le phénomène va s'arrêter aux États-Unis et continuer à prospérer aux États-Unis et au Japon, et pas plus que ça en France? On ne le pense pas. On pense qu'en réalité, ça va plutôt se développer. Parce que le marché américain, il n'est pas saturé, c'est un marché très large. Enfin, c'est un marché qui est quand même déjà très très regardé. Et donc le marché européen est évidemment beaucoup plus libre au fond de choses. Tous les pays, il y a beaucoup de cas en Angleterre, il y a un peu plus de cas qu'en France, en Allemagne, et puis la France, il y a relativement peu de cas. Donc on peut penser qu'il y a un potentiel ou un attrait potentiel de la France et de l'Europe pour ces sociétés.
Eric Woerth, qui s'est saisi du sujet au mois de mai dans le cadre d'une mission sur l'activisme actionnarial menée avec le député LREM Benjamin Dirks. Muriel Goldberg-Darmon, que vous inspirent ces propos d'Eric Woerth?
Je suis assez en phase, évidemment, pour revenir sur le sujet de la communication. On entend seulement parler des gros dossiers qui, effectivement, n'ont pas pu trouver, en quelque sorte, d'accord préalable au moment de l'entrée de l'activiste.
Et donc, notamment, les offensives de Muddy Waters vis-à-vis de Casino.
Alors, le cas de Casino Muddy Waters, qui effectivement est le plus flagrant aujourd'hui, vous avez un fonds activiste qui, lui, là, est un fonds short sell, c'est-à-dire qui vend à découvert et qui a publié...
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vend à découvert?
Alors, je pense qu'on va se retourner...
Alors, vendre à découvert, ça signifie vendre un titre que vous ne détenez pas. Et c'est une technique qui est utilisée pour spéculer à la baisse. Généralement, quand vous spéculez, vous achetez aujourd'hui et vous espérez revendre plus cher. Eh bien, dans le cas des ventes à découvert, vous spéculez à la baisse, ça veut dire que vous vendez aujourd'hui en essayant de racheter moins cher plus tard. Alors, c'est une pratique qui existe sur les marchés et qui est assez négative pour les entreprises parce que ça les enferme dans une spirale dépressionniste. Et c'est généralement vu comme assez mauvais.
On revient vers vous, Muriel Goldberg-Damont.
Je suis évidemment tout à fait d'accord avec cette définition. Et ce qui est intéressant à dire dans ce cas Muddy Waters Casino, c'est que d'un côté, de ce fait, on reproche à Muddy Waters d'avoir fait une manipulation de marché, puisqu'ils ont donné au marché une information qui était très négative sur Casino. Du coup, le cours est tombé. De l'autre côté, ce que Muddy Waters fait valoir à l'encontre de Casino, c'est que l'information financière donnée par Casino au marché était fausse. Mmh. Et que donc tout ce qu'ils ont fait, c'était rétablir la bonne information.
Mais ce qu'on voit bien ici, c'est qu'il y a différents types de fonds activistes, c'est-à-dire que tous ne poursuivent pas les mêmes objectifs, Gunther Cappel-Blanquart.
Oui, si vous permettez, votre question, c'était pourquoi en France, en Europe, maintenant ? Il y a une raison qui n'a pas encore été évoquée, qui est que, bien, traditionnellement, en France, il y avait un actionnariat assez diffus. On avait des petits porteurs, et ces petits porteurs ont assez peu de pouvoir, assez peu d'influence. De plus en plus, aujourd'hui, les petits porteurs se désengagent et on a des fonds qui ont plus de pouvoir. Ça, c'est la première raison. Et du coup, ça facilite cet activisme. Et puis, il y a une deuxième raison, qui est une raison plus, je dirais... conceptuel. Aujourd'hui, quand on s'intéresse aux entreprises et quand on s'intéresse aux actionnaires, on ne s'intéresse pas qu'à leur intérêt propre. Vous disiez tout à l'heure, l'intérêt des fonds activistes, c'est l'intérêt de tous les actionnaires. Certes, mais c'est pas forcément l'intérêt de toutes les parties prenantes. C'est pas forcément l'intérêt des salariés. C'est pas forcément l'intérêt de tout l'écosystème autour de l'entreprise. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus attaché à ces réflexions-là, et c'est la raison pour laquelle, on s'intéresse plus aux fonds activistes.
Alors ça pose une question importante, en effet, qui est celle de l'impact de cet activisme sur les salariés, notamment. Muriel Goldberg-Darmont, ce qu'on constate, c'est que ces fonds activistes ont une influence sur des conséquences sociales qui peuvent être assez importantes, sur la baisse des salaires notamment.
Alors, l'impact du fonds n'est pas toujours aussi direct. Mais effectivement, il y a des cas où la société est tellement déstabilisée qu'effectivement, elle doit prendre des mesures, on va dire, d'urgence qui peuvent passer par des licenciements ou autres. Mais le lien de causalité n'est absolument pas clair. C'est vraiment du cas par cas en fonction de ce qui est reproché, entre guillemets, par le fonds activiste à la société.
À l'inverse, ce qui est parfois salué, c'est le fait que ces fonds activistes ont comme effet de limiter les mandats des dirigeants d'entreprise par l'influence qu'ils peuvent exercer et de limiter aussi les salaires de ces dirigeants, Muriel Goldberg-Damont.
Tout à fait, parce que très souvent, l'un des axes, c'est la remise en cause de la gouvernance, où les fonds pointent du doigt des administrateurs qui sont là depuis des années, le manque d'indépendance de certains administrateurs, leur rémunération, la rémunération des dirigeants, ont un impact énorme sur la gouvernance, qui n'est pas toujours appréhendée, évidemment, par l'ensemble de la place, parce que tout le monde n'a pas le temps de s'intéresser à ces sujets-là.
Beaucoup de fonds activistes vont faire le choix de changer le capitaine qui est à la tête d'une entreprise, Gunther Cappel-Blanquart. C'est pour ça qu'il y a une méfiance d'un certain nombre d'entreprises envers ces activistes.
C'est bien ça, je me permets de rappeler. Hein, le fonds activiste, il va viser en priorité des entreprises qui vont mal. Donc, effectivement, une fois qu'ils prennent pas le contrôle, mais en tout cas, une fois qu'ils ont un peu d'influence sur ces entreprises, la première chose, c'est pas de licencier les salariés, mais c'est de licencier l'équipe dirigeante, de nommer des administrateurs qui vont justement impulser une nouvelle dynamique. En revanche, ensuite, ça conduit, hein, dans certains cas, à ce qu'il y ait des plans sociaux, à ce qu'il y ait des restructurations. Et c'est les conséquences sociales négatives dont on parlait tout à l'heure.
Alors, il y a des chiffres qui circulent qui disent qu'une entreprise ciblée par ces fonds activistes sur trois disparaîtrait. Alors, la question qu'on peut se poser, Gunther Cappel-Blanquer, c'est celle des conséquences de cet activisme sur le système économique dans son ensemble. Est-ce que c'est des entreprises qui devaient de toute façon disparaître dans une vision libérale ou au contraire, est-ce que c'est poussé à l'effondrement?
Effectivement, les chiffres que vous citez sont ceux qui circulent et ils sont pas discutables. En revanche, et j'ai peur de paraître cynique, mais ça fait partie de la dynamique économique. On parle souvent, hein, c'est le concept qu'on utilise chez les économistes, de destruction créatrice. Eh bien, les fonds actifs participent. Exactement, hein, participe de ce mécanisme de destruction créatrice. Si on veut de l'innovation, si on veut du dynamisme, eh ben les entreprises qui sont sur des process un peu obsolètes, bah, finissent par effectivement disparaître.
Mais alors la question qui est intéressante aussi, c'est celle du long terme ou du court terme, parce que ce qui est reproché à ces fonds activistes, c'est effectivement de créer de la valeur, comme le disait Muriel Colberg-Darmont, mais de la créer à court terme. Qu'est-ce que vous en pensez, Gunther Cappel-Blanquer?
Ah, cette question du court-termisme des marchés, c'est une question clé, hein, sur laquelle, on a beaucoup de mal à mesurer. Ce qu'on peut rappeler, c'est que les volumes de transactions sur les marchés financiers ont explosé ces 20 dernières années. Mais littéralement, aujourd'hui, les volumes sont sans commune mesure. C'est des milliers de milliards qui s'échangent quasiment chaque jour sur tous les marchés. Ce qui participe à ce court-termisme. Mais ce court-termisme des marchés financiers, il s'inscrit dans une dynamique plus large, qui est finalement un court-termisme de la société elle-même. Je sais que sur cette antenne, vous faites souvent référence aux travaux de Bauman sur la société liquide, cette société où tout doit aller plus vite. Notre modernité, elle s'inscrit dans cette idée du court terme. C'est vrai sur les marchés financiers, c'est peut-être le symbole de ce court-termisme, mais le problème est bien plus général, il me semble. Les dirigeants eux-mêmes, sans avoir besoin des fonds activistes, sont souvent très court-termistes.
Et sur ce sujet du court terme, Muriel Colberg-Darmont, et plus largement sur les différentes techniques qui sont déployées par les fonds activistes, comment concrètement est-ce qu'ils prennent un certain pouvoir sur ces conseils d'administration?
Alors, c'est une très bonne question. La prise de participation, comme je l'évoquais tout à l'heure, est généralement progressive, ou pas. Elle est parfois discutée avec le management, ou pas. Mais en tout état de cause, ce qu'on voit d'un point de vue public, c'est la prise de pouvoir, souvent par effectivement, comme on l'évoquait, la révocation de certains membres, de demande de révocation de certains membres du management, mais rarement, comme vous l'avez pu le constater, l'entrée d'un fonds activiste au conseil d'administration. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il est au conseil d'administration, il détient en tant que tel de l'information privilégiée, et donc n'est plus en mesure d'acheter ou de céder des titres. Du coup, il n'a jamais tellement envie d'y être, et son objectif n'est d'ailleurs pas de prendre le contrôle de la société.
Ça n'arrive jamais.
Non, très rarement. L'objectif de ces fonds long terme, c'est d'améliorer la valeur. C'est pas de prendre le contrôle et d'aller soi-même au management. En revanche, pour aider à cette construction d'une valeur, ils vont proposer la nomination d'administrateurs indépendants qui vont justement apporter un nouveau regard, des nouveaux challenges à la société, mais qui sont bien indépendants. Ce ne sont pas des représentants du fonds activiste. Donc il va y avoir une pression qui est faite, mais en même temps, ils ne prennent pas la place du management.
Alors je vous propose maintenant d'écouter Carson Block, qui est le fondateur du fonds activiste Muddy Waters, qui s'est donc attaqué au groupe Casino dirigé par Jean-Charles Naouri. Il dénonce l'attitude de l'AMF, l'autorité des marchés financiers.
Disons qu'il y a 3 ans et demi, si l'AMF s'était autant concentrée sur Casino pendant cette période qu'elle l'avait été sur nous, Casino ne continuerait pas à se laisser aller autant qu'ils l'ont fait. Je veux dire que c'est l'un des principaux points que nous avons soulevés dans le rapport. Vous avez Rally, vous avez Euris et Finatis en tête, et il doit aspirer tout cet argent pour payer ses dividendes en amont. Et il n'a pas vraiment les liquidités pour le faire. Ainsi, au cours des 3 dernières années et demie, il a aspiré plus d'argent et a payé en amont pour que Jean-Charles Naouri puisse s'accrocher à son empire. En fin de compte, Casino est une société plus faible en raison de ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années et demie. Finalement, je ne pense pas que ça sera beau à voir pour Rally, Finatis et Euris, les sociétés holding au-dessus de Casino. À mon avis, ils risquent de s'effondrer, parce que Rally ne peut pas payer la dette.
Voilà ce que nous dit ici Carson Block, c'est que finalement les fonds activistes ont le mérite de révéler les fragilités financières de certaines entreprises, Muriel Goldberg-Darmon.
Tout à fait, donc là on est dans le cas qu'on évoquait précédemment du short sell, où Muddy Waters a mis en exergue dans son report des défaillances dans la communication financière. On verra ce que donne l'enquête de l'AMF, puisque comme je l'évoquais, bah maintenant il y a une enquête sur l'information financière de la société. Et je dirais qu'in fine, on verra si d'une certaine manière, Muddy Waters avait raison ou pas. Est-ce que l'information financière de la société était bonne ou pas? Et à l'inverse, est-ce que Muddy Waters a finalement donné de mauvaises rumeurs, a finalement fait tomber le cours en utilisant son propre rapport et donc a procédé schématiquement à une manipulation de cours. Maintenant, il faut bien être clair sur l'AMF, le temps de l'enquête est extrêmement long. Il y a des enjeux extrêmement lourds, il y a des respects du contradictoire. La difficulté de ce dossier qui est relevé par Carson Dodd, c'est qu'effectivement, maintenant, ces faits sont extrêmement anciens. Donc on a beaucoup de mal à accepter qu'on en soit encore aujourd'hui à attendre une décision de l'AMF. Maintenant, ce n'est pas si simple pour l'autorité des marchés financiers de pouvoir avoir un rôle au moment d'une attaque activiste.
Gunther Capelblanca.
Alors, puisqu'on parle de l'AMF, il faut souligner que l'AMF, c'est une toute petite agence. Je vous disais tout à l'heure que les marchés financiers ont explosé, les transactions sont toujours plus nombreuses, les produits toujours plus sophistiqués, et il y a une seule chose qui ne change pas dans cet univers de la finance, c'est les moyens mis à disposition de l'AMF. Et d'ailleurs, c'était une des recommandations, et je la trouve salutaire, une des recommandations du rapport Wirth, qui consistait à dire il faut plus de moyens pour l'AMF, plus de moyens humains, plus de moyens financiers. Comparé aux autres pays, l'AMF est un nain. On a besoin d'un gendarme boursier qui ait beaucoup plus de marge de manœuvre.
Est-ce que ça pourrait pas passer par une échelle européenne avec l'agence européenne qui existe de supervision des marchés?
Alors, on a une agence européenne, mais pour le moment, cette agence européenne, elle a davantage un rôle de coordination, de mise en commun de l'information. Le bras armé de la régulation financière en France, pour ce qui est des marchés, ça reste l'AMF.
Vous parlez des recommandations d'Eric Wirth, et en effet, il y en a un certain nombre, 13 en tout, qu'il propose dans son rapport qui vient de paraître. Donc, et parmi ces recommandations, il y a cette idée donc de davantage de moyens et de régulation, mais aussi davantage de transparence. Il faut plus de dialogue aussi, Muriel Goldberg-Darmon, entre les investisseurs et les entreprises.
Tout à fait. Je pense que, comme on l'évoquait, le dialogue actionnarial, et là on va le qualifier entre le dialogue entre le fonds activiste et la société, est un enjeu majeur. Comme on le disait, c'est comme ça que parfois ils trouvent des accords sans même que le marché ne soit au courant. Néanmoins, il faut toujours se souvenir, une fois encore, que la régulation boursière est très présente, puisque ce dialogue ne doit pas conduire à la transmission d'informations privilégiées par la société cotée et une rupture d'égalité d'information entre ces fonds activistes et les autres minoritaires. Or, il va de soi que quand un fonds va commencer un dialogue avec le conseil d'administration ou tel administrateur, il ne va pas se contenter d'avoir uniquement de l'information publique. S'il commence à discuter de stratégie ou de changement, évidemment, c'est une information qui impacte le cours de bourse. Et on ne peut pas, d'un point de vue boursier, avoir une telle rupture d'égalité de l'information.
La transparence a ses limites, Gunther Capelblanca?
Certes, la transparence a ses limites, mais il faut absolument favoriser cette transparence. Là, pour le coup, il y a un déséquilibre énorme. On demande beaucoup de transparence de la part des entreprises. Les entreprises doivent publier des rapports trimestriels assez détaillés. La comptabilité des entreprises est normée. On leur demande également aujourd'hui de publier des rapports extra-financiers sur leur politique sociale, environnementale. Donc pour les entreprises, il y a énormément d'informations qui est véhiculée. Et pour les fonds, on sait très peu de choses. La plupart des hedge funds, et là je ne parle pas du cas particulier des fonds activistes, mais les hedge funds de manière générale, ont très très peu d'obligations de divulgation d'informations. Alors sous prétexte que leurs stratégies sont confidentielles, on n'a aucune idée, bien souvent, de leur stratégie, de leur court-termisme. Hein. On ne sait pas mesurer le temps de détention des hedge funds. La plupart sont localisés dans des paradis fiscaux. Donc oui, la première chose à faire, effectivement, d'un point de vue réglementaire, c'est d'assurer la transparence.
Wall Street is burning. Yes, Mr. Dow Jones is feeling down. Dow Jones is feeling down. Hey, Dow, how you doing? He said, I'm down, down, muscle down. Now Wall Street is burning. Now your Wall Street is burning. Wall Street is burning. Now your Wall Street is burning. And we're dancing through the flames. Dancing through the flames. We're dancing through the flames. Yes, we're dancing through the flames. We're dancing, we're dancing, we're dancing. Tokyo is burning, I hear Tokyo is burning. Tokyo is burning, I hear Tokyo is burning. Yes, Mr. Nick A is feeling down. Nick A is feeling down. Hey, Nick, how you doing? He said, I'm down, down, also down. We're dancing through the flames, dancing through the flames. We're dancing through the flames, yes, we're dancing through the flames. We're dancing, we're dancing, we're dancing, we're dancing. Yeah, 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 yeah. Dance, dance.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
Les investisseurs ont commencé, je vous ai dit, au début des années 2000 à investir dans les hedge funds. Et de début des années 2000 jusqu'à 2008, tout a très bien marché. Les bourses ont monté, le crédit était facile, l'immobilier a joué son rôle très important, etc. Or, là, ils ont fait des pertes dans la crise, pas seulement du fait des hedge funds, mais aussi du fait des hedge funds. Et en conséquence, on peut espérer qu'un certain nombre de gros investisseurs vont revoir un peu leur attitude et obliger les hedge funds à des contrats qui soient des contrats moins léonins, enfin, disons, plus symétriques, et qu'en réalité, des contrats de partage des pertes, vous gagnez avec nous, mais vous perdez avec nous, ou bien bonus et malus, c'est-à-dire vous perdez une partie de ce que vous avez constitué comme perte, et vous les rejetez pas tous sur nous, donc il y a un problème de changement de contrat. Mais ça, vous voyez, c'est plus de l'ordre de la régulation publique, ouais. C'est de l'ordre de ce qu'on appelle la discipline de marché, c'est-à-dire que ceux qui amènent de l'argent dans les hedge funds doivent leur demander des comptes.
Leur demander des comptes, l'économiste Michel Alguita, dans une interview accordée à la RTBF, c'était le 18 avril 2011. Alors on parlait hier des fonds de pension qui avaient perdu beaucoup d'argent en 2008 après avoir investi justement dans des hedge funds. Est-ce que cette relation, Günther Kapel-Blancard, entre investisseurs et hedge funds s'est rééquilibrée? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui?
Alors, on parlait tout à l'heure des fonds activistes, c'est qu'une petite partie des hedge funds. Les hedge funds, c'est beaucoup plus gros et il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en œuvre. Mais le point commun des hedge funds, c'est, on en a un petit peu parlé, un manque de transparence et puis un système de gestion qui est effectivement un peu asymétrique. Hein, c'est ce qui était évoqué dans l'interview. Pour dire les choses plus simplement, lorsque vous confiez de l'argent à un hedge fund pour être placé sur les marchés, le hedge fund va prendre quelques pourcentages pour sa rémunération. Et puis, il va prendre en plus un pourcentage sur la performance qu'il va réaliser. Et ce pourcentage est élevé, c'est quasiment 20%, voire 40% de la performance. Et le système est asymétrique dans la mesure où, bien, quand le hedge fund gagne de l'argent, vous fait gagner de l'argent, il empoche une mise importante, 20, 30, 40%. Mais quand le hedge fund se trompe et vous fait perdre de l'argent, eh bien, pour le hedge fund, ça ne coûte rien. Hein. C'est pile je gagne, face vous perdez. Et c'est ce côté asymétrique qui est vraiment dangereux dans les stratégies des hedge funds pour ceux qui investissent, hein, et qui sont les fonds de pension notamment, ou les grands investisseurs.
Ça peut être les fonds de pension, ça peut être les fonds souverains, puisque avec les taux bas, ils investissent aussi de plus en plus dans les hedge funds. Alors ça fait déjà un certain nombre d'années, mais parce qu'ils cherchent des rémunérations plus importantes, Günther Kapel-Blancard.
Exactement, hein, donc ces fonds, qu'on parle de fonds souverains, qu'on parle de fonds de pension, aussi des fonds d'assurance, hein, qui placent l'argent du public, du grand public, de chacun d'entre nous. Hein, ces fonds vont être à la recherche de rendement et donc ils sont tentés parfois d'aller solliciter ces hedge funds plus spéculatifs, qui rapportent plus, mais qui sont aussi beaucoup plus risqués.
Et c'est pour ça que les hedge funds portent une lourde responsabilité dans la crise financière de 2008. Günther Kapel-Blancard, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, leur responsabilité dans la crise de 2008, elle tient surtout à ce qu'ils ont alimenté la fameuse bulle des subprimes. Vous savez, ces actifs immobilier américain à risque. Hein, les hedge funds ont été très présents dans l'activité sur ce marché et d'ailleurs à ce moment-là la plupart des hedge funds ont fait faillite. Hein, on n'a pas de chiffres précis, je vous disais il y a un manque de transparence, mais près de la moitié des hedge funds ont dû fermer. Mais là encore, le problème il n'est pas pour les hedge funds, il est pour la société dans son ensemble, parce qu'encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, les hedge funds quand tout va bien gagnent de l'argent et quand tout va mal, eh bien il se passe pas grand-chose. Ils ferment et ils vont ouvrir un autre fonds ailleurs. Il y a
alors
pas
que
de
l'argent
conséquence.
Des retraites, potentiellement des épargnants, lui, disparaît. Mais alors, ça a été révélé au moment de la crise de 2008 que ces hedge funds manquaient de transparence, n'étaient pas suffisamment régulés, que cette relation entre investisseurs et hedge funds pouvait être déséquilibrée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que des progrès ont été effectués, Muriel Goldberg-Damont?
Alors, pour moi, c'est un sujet très différent du sujet de l'activisme. Là, on est en train de parler du fonds et de ses relations avec ses propres investisseurs. Donc, il s'est soumis à une réglementation propre au fonds d'investissement qui est totalement distincte de la réglementation qu'on évoquait sur les marchés financiers. Par rapport à l'activisme actionnarial, le sujet, c'est celui de ce fonds d'investissement, hedge fund, qui va investir sur les marchés. Et pour moi, la question va être la redevabilité qu'il a vis-à-vis de ses propres investisseurs. Et effectivement, si il rentre dans une campagne activiste et qu'il investit dans des sociétés de ce type-là, quel retour il va y avoir sur ses propres investisseurs? Mais pour moi, c'est deux temps de marché et deux temps de régulation.
C'est l'amont et l'aval.
Exactement, exactement. Donc, on ne peut pas faire un parallèle entre ces deux réglementations.
Mais alors, sur les progrès qui ont pu apparaître, Gunther Capel-Blanca, on entendait Michel Aglietta appeler de ses voeux en 2011 un meilleur équilibre, une meilleure transparence. Qu'en est-il aujourd'hui?
Il y a assez peu de progrès, il faut reconnaître. Hein. Les hedge funds font partie de ce qu'on appelle communément la finance de l'ombre, cette finance qui est moins réglementée. L'essentiel de la régulation financière, elle porte sur les banques. Pourquoi les banques? Parce que les banques collectent des dépôts. Et donc, il faut absolument protéger ces dépôts, ce qui justifie une réglementation très contraignante des banques.
D'où les réglementations macroprudentielles, les fameuses réglementations BAL qui se sont succédées ces dernières années.
On a énormément de réglementations bancaires, il y a beaucoup de règles, vous en avez cité quelques-unes les plus importantes. Maintenant, il y a toute une partie de la finance où c'est à vos risques et périls. Et c'est le cas des hedge funds, c'est le cas des fonds activistes. Vous voulez investir dans certains fonds potentiellement rentables mais très risqués, faites-le à vos risques et périls encore une fois. Tant que ça n'a pas de conséquences sur la société. Or, on s'est rendu compte avec la crise que le problème, il dépassait le cadre simplement des hedge funds. Ces hedge funds, par leur activité, avaient des conséquences négatives sur la société, pouvaient être déstabilisants, ça pouvait déstabiliser les entreprises, comme dans le cas des fonds activistes, ça pouvait déstabiliser des États, comme dans le cas des fonds vautours. Et c'est la raison pour laquelle il y a un besoin de réglementation. Mais pour le moment, très peu de choses ont été faites.
Alors justement, on a parlé des fonds activistes qui existent donc dans cette galaxie des hedge funds. Il y a aussi, vous l'avez cité, Gunther Capel-Blanca, ces fonds vautours qui rachètent au rabais les dettes des entreprises ou des États. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le détail cette stratégie des fonds vautours qui finalement rachètent sur le marché secondaire ces dettes, c'est-à-dire c'est le marché d'occasion des dettes?
Exactement, le marché d'occasion. Donc imaginez un premier investisseur lambda, enfin n'importe qui, un agent, un épargnant, qui va acheter des dettes d'État. Et puis, finalement, l'État est dans la capacité de rembourser ses dettes. Ça a été le cas dans les pays d'Amérique latine notamment, l'Argentine était à un moment donné, ou la Grèce en Europe, dans la capacité de rembourser ses dettes. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous préférez dans ce cas-là revendre votre dette, alors avec une décote, vous avez prêté 100, eh bien vous êtes prêt à revendre aujourd'hui à, disons, 50, ce que vous avez acheté 100, hein, avec l'idée qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et puis, donc ça, c'est le marché de l'occasion des titres de dette. Et donc, on a des fonds, les fonds vautours, qui sont spécialisés dans le rachat de ces créances et qui après vont faire pression sur les États pour récupérer leur mise, avec parfois des rentabilités extrêmement fortes, parce que quand les États sont en détresse, les titres se vendent pour une bouchée de pain. Et donc, ces fonds vont racheter quantité de titres de dette à très bas prix, et puis, devant les tribunaux, faire valoir leurs droits, pour récupérer un maximum. Et on a eu des cas où ces fonds ont eu gain de cause avec des rentabilités très fortes.
Alors justement, l'Argentine se bat depuis le début des années 2000 contre les fonds vautours. Je vous propose d'écouter les explications du juriste Renaud Vivien qui était invité chez nos confrères de France Inter le 20 août 2014.
Aujourd'hui, l'Argentine ne peut pas rembourser les créanciers qui ont accepté la réduction de la dette en 2005 et 2010 suite à l'action en justice intentée par deux fonds vautours. Donc les fonds vautours s'appellent NML Capital et Aurelius. Donc ces deux fonds vautours ont refusé de prendre part aux négociations en 2005 et 2010 sur la dette argentine et ont utilisé la stratégie emblématique des fonds vautours, celle que vous avez décrite, qui est d'attaquer le pays en justice en lui réclamant non pas le prix qu'ils ont déboursé, mais le prix d'origine plus les intérêts de retard, plus les frais de justice. Et dans le cas de l'Argentine, on est confronté à des profits importants engrangés par ces fonds vautours, des profits illégitimes, et c'est une plus-value de 1600% qui a été empochée par ces deux fonds vautours. Et aujourd'hui, l'Argentine ne peut pas rembourser les autres créanciers, comme je le disais, puisqu'il y a eu une décision de la justice new-yorkaise qui a donné raison aux fonds vautours et qui a dit que l'Argentine doit payer tous ses créanciers.
Gunther Capel-Blancard, c'est ce qui explique aujourd'hui encore les difficultés économiques que l'Argentine connaît.
Oui, bien sûr. Tout à l'heure, il a été question à l'interview de négocier. Quand un État est en difficulté, ce qui est le plus légitime et c'est assez intuitif, c'est d'essayer de discuter avec cet État pour renégocier la dette. Par exemple, en accordant un peu plus de temps pour le remboursement. Parce que vouloir obtenir tout de suite le remboursement de la dette, c'est mettre l'État en faillite et avec des conséquences sociales qui peuvent être absolument dramatiques. Donc généralement, les créanciers s'organisent pour accorder un peu de temps, renégocier un certain nombre de conditions de remboursement.
Alors ces fonds vautours s'opposent à la restructuration de la dette.
Exactement, ils s'opposent à cela, ils veulent obtenir l'argent tout de suite en allant devant des tribunaux, alors hors juridiction, hein, parce que là on parle de la dette argentine qui va être discutée et jugée par un tribunal à New York. Et puis les fonds vautours s'arrêtent pas à New York, ils vont faire le tour des pays où les juridictions sont les plus favorables aux créanciers. Alors en France en particulier, la juridiction est plutôt favorable à l'emprunteur qu'aux créanciers. Mais aux États-Unis c'est pas le cas.
Mais donc ils peuvent faire le marché de leur juridiction, si je puis dire.
Exactement, ils vont là où le droit leur est le plus favorable pour obtenir immédiatement, ou le plus rapidement possible, hein, pas forcément immédiatement, mais le plus rapidement possible, le remboursement de leur emprunt.
Et vous parliez de retour sur investissement important. En effet, là, ce qu'on vient d'entendre, une plus-value de 1600%, c'est ça les ordres de grandeur?
Oui, parce qu'ils ont réussi à racheter la dette à très très bas prix. Donc même si la dette est remboursée, le fait de l'avoir achetée à bas prix, finalement, multiplie la rentabilité.
Alors, il y a eu le rapport Ziegler qui a été présenté devant les Nations Unies en 2016, qui a dénoncé ces pratiques qui ont eu des conséquences très graves. Alors on l'a entendu pour l'Argentine, mais ça a été le cas dans d'autres pays. Gunther Capel-Blancard, on peut penser au Congo ou à la Zambie. Ça a des conséquences très concrètes, sociales, sur le pays.
Bien sûr, là on comprend bien, puisque l'État, s'il est mis en défaut, l'État va devoir couper dans les dépenses publiques. Alors les premières dépenses publiques pour des pays, encore une fois, toujours en grande difficulté. Donc les dépenses publiques, ça va être évidemment les dépenses d'éducation, les dépenses de santé. Ce qui empêche ce pays de redémarrer, comme vous le dites très bien. Mmh. Et c'est là où vraiment on peut dénoncer ce que vous appelez tout à l'heure du court-termisme. On enferme les pays dans une situation de laquelle ils ne peuvent pas sortir.
Et alors là encore se pose la question de la régulation. Il y a certains pays qui se sont attaqués à ces questions, et je pense en particulier au Royaume-Uni. Il y a une loi britannique qui limite le montant recouvrable en cas de réclamation qui porte sur des dettes non réglées. Ça, c'est quelque chose sur lequel le Royaume-Uni a été assez pionnier, Gunther Capel-Blancard.
Oui, on a eu donc une initiative au Royaume-Uni, aussi en Belgique. Hein. L'idée est toujours un peu la même. Hein. L'idée, c'est de dire, si vous avez racheté alors une dette qui vaut 100 au départ, si vous la rachetez 10, vous pouvez pas obtenir 100 de remboursement. Vous obtiendrez au maximum ce que vous avez déboursé. Vous avez payé 10, au maximum vous obtiendrez 10. Mmh. Et donc, ça semble assez intuitif et de plus en plus de pays essayent de mettre en place ce type de d'approche. Malheureusement, ça a relativement peu d'effet puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les fonds vautours ont la possibilité d'essayer essentiellement passer sur des tribunaux
qui les intéressent. Et sur ce point, Muriel Goldberg-Damont, sur le fait que les législations nationales essayent de plus en plus de s'emparer de cette question des fonds vautours, ça va dans le bon sens, mais ça reste au niveau national.
Alors, pour revenir sur notre thème d'activisme et de marché financier, les fonds vautours, comme je l'évoquais tout à fait au début de l'émission, c'est ceux qui ont tendance à prendre des blocs de contrôle qui empêchent les sociétés de sortir de la cote et qui les empêchent d'évoluer de façon assez similaire à ce que vous évoquiez là sur les États. Alors par exemple, à cet égard, la France vient récemment, par la loi Pacte, de diminuer le seuil de détention de 95 à 90%. Ce qui signifie qu'avant, les fonds vautours avaient besoin d'un peu plus de 5% pour bloquer une sortie de la cote, alors qu'aujourd'hui, il va leur falloir plus de 10%. Donc d'une certaine manière, ça va aussi les empêcher ou de leur demander plus d'investissement pour arriver à bloquer cette sortie de cote.
Mais est-ce que c'est suffisant ?
Pas forcément, mais et sans parler que les sorties de cote posent d'autres problèmes d'expropriation et donc de protection des actionnaires minoritaires puisque eux-mêmes sont sortis de la cote. Donc c'est toujours un équilibre qui doit y avoir entre les émetteurs, les actionnaires et l'intérêt de la société.
Mais ce que vous nous dites, Muriel Goldberg-Damont, c'est que au niveau des entreprises, l'action que mènent les fonds vautours a été prise en compte en France, là où elle a pu être prise en compte pour ce qui est de la dette des États au Royaume-Uni ou en Belgique.
Alors cette réforme procède de ça, mais elle a aussi d'autres intérêts, puisqu'en fait le fait d'avoir un seuil aussi élevé de détention à 95%, donc pour sortir une société de la cote, empêcher des industriels ou des fonds type private equity d'acheter des sociétés, de pouvoir les intégrer notamment fiscalement, mais les intégrer aussi opérationnellement, puisqu'ils ne pouvaient pas les sortir de la cote. Donc cette réforme a deux facettes et a vocation à rééquilibrer les enjeux de marché entre sociétés et actionnaires.
Alors on voit que les États s'emparent de ces questions, mais alors ce que préconisait le rapport Ziegler, c'était de mettre en place un mécanisme international de restructuration des dettes souveraines. Qu'est-ce que vous en pensez, Gunther Capelle-Blanca?
Dans l'idéal, oui. On a vu qu'un des principaux problèmes, mais c'est plus large en finance, le problème, c'est celui de la mondialisation. Dès lors qu'on met en place une règle, et ça c'est valable dans beaucoup de réglementations financières, dès lors qu'on met en place une règle dans un pays, il faut s'assurer qu'il y ait quelque chose d'équivalent un peu partout dans le monde, parce que les flux de capitaux sont extrêmement mobiles. C'est très facile pour un fonds, pour un investisseur, d'aller où ça lui chante et où la réglementation est la plus complaisante.
La question se pose aussi évidemment pour les questions sociales, fiscales, avec cette idée que seule une harmonisation au niveau au moins européen, sinon international, serait nécessaire.
Exactement. Mais alors quand même, je pondère un peu ce que je viens de dire moi-même. Évidemment que l'harmonisation, c'est mieux. Maintenant, cet argument, il est souvent utilisé dans les pays pour disqualifier les initiatives nationales. Mais ces initiatives nationales, on en a besoin.
Elles peuvent ouvrir la voie à des initiatives internationales.
Exactement. Sans ces initiatives nationales, sans des pays pionniers, eh bien, on n'aura jamais d'harmonisation. Donc, attention, l'argument de la mondialisation, il est à double tranchant. Évidemment qu'on a besoin d'une harmonisation à l'international, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer au niveau national pour les fonds vautours ou autres.
Et en l'occurrence, les législations qui sont apparues en Belgique ou au Royaume-Uni, elles pourraient entraîner d'autres initiatives ailleurs, Muriel Goldberg-Darmon?
Alors sur ce sujet-là, je vais me retourner vers Gunther, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de ce type de dette. Donc
Et peut-être plus largement sur la régulation internationale, sur cette nécessité d'une
Alors la régulation au niveau international. C'est évident qu'on a une harmonisation européenne, on a des normes européennes, tout le droit boursier français, la réglementation de l'AMF est une application des directives européennes. Maintenant, chaque pays effectivement a une petite marge de manœuvre, et avec le temps, l'harmonisation se fait. Mais je pense qu'on n'a pas fini de la faire, et comme vous l'évoquiez, nous n'avons pas, par exemple, à ce stade, une autorité justement pour mener des enquêtes et sanctionner au niveau européen. Ça reste au niveau à l'autorité des marchés financiers en France, en tout cas.
La question de la régulation est d'autant plus complexe qu'on a du mal à appréhender peut-être la complexité de ces mécanismes financiers. Et je pense particulier à ce qu'on appelle l'effet de levier, Günther Kappel-Blancard. C'est un mécanisme sur lequel les hedge funds s'appuient. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi ça permet à ces hedge funds de faire justement davantage de bénéfices?
Pour ce qui est de l'effet de levier, ça paraît compliqué, mais au fond, l'idée est assez simple. Imaginez que vous ayez un placement de 100 qui rapporte 5%. Donc vous gagnez 5. 5% de 100, ça vous fait 5. Imaginez maintenant que vous soyez en mesure d'emprunter 99. Vous empruntez 99, vous n'investissez que 1, et ça vous rapporte toujours 5. Donc avec une rentabilité qui est bien supérieure. Auparavant, vous aviez du 5%, là, vous n'avez pas du 5%. Vous avez beaucoup plus, puisque vous multipliez par 5 votre profit, votre rentabilité. Et donc les hedge funds, évidemment, pour maximiser leurs gains, n'investissent pas leur propre argent, j'ai envie de dire, elles vont l'emprunter. C'est le principe de l'effet de levier. Cet effet de levier, il est à double tranchant, parce que ça s'accompagne aussi d'une augmentation des risques.
Et c'est ce que je voulais vous demander, Günther Kappel-Blancard, c'est ça qui entraîne cette augmentation des risques qui a pu poser problème, notamment quand il s'agissait d'investir l'argent des retraités, des épargnants ou l'argent qui était issu du pétrole, par exemple, dans le cas des fonds souverains.
Oui, plus vous avez de dettes pour investir, plus vous empruntez pour investir, et moins le matelas de sécurité, il est important en cas de coup dur. Et donc, c'est la raison pour laquelle on assiste à autant de faillites de hedge funds. Le problème d'effet de levier est d'ailleurs pas propre aux hedge funds, il est aussi valable pour les banques. Les banques empruntent massivement pour les fonds de private equity. C'est un principe assez général, ce principe d'effet de levier. Il est légitime d'une certaine manière, mais il doit être encadré, il doit être contrôlé, parce que l'excès conduit à davantage de risques.
Et justement, au niveau des banques, il y a un certain nombre donc de réglementations qui ont été mises en place. On commençait à le dire tout à l'heure, et notamment le fait d'avoir un matelas qui permet effectivement aux banques de faire face à un certain nombre de risques. On pourrait imaginer, Günther Kappel-Blancard, un mécanisme similaire dans le cadre des fonds d'investissement, en particulier des hedge funds.
Oui, on n'a pas de limite. Pour les banques, il y a des limites. Pour les hedge funds, il n'y a pas vraiment de limite dans leur gestion, de manière générale. Tout à l'heure, dans l'interview que vous diffusiez de Michel Aglietta, il insistait d'ailleurs plus sur ce qu'on appelle la discipline de marché. C'est pas tant au régulateur d'intervenir, c'est au marché lui-même de s'auto-réguler, c'est-à-dire ces investisseurs institutionnels, ceux qui apportent l'argent à ces fonds, à ces hedge funds, à ces fonds vautours, eh bien, c'est à eux de mettre la pression pour avoir un certain nombre de garanties. C'est plutôt via la discipline de marché.
Et déterminer le niveau de risque que chaque investisseur est prêt à prendre ou pas. Ne pas oublier qu'il y a toujours un aléa. S'il y avait une certitude de gain, tout le monde le saurait.
Mais là encore, ça pose la question de la circulation de l'information. Puisque par exemple, si un fonds de pension décide d'investir dans un fonds vautour, est-ce qu'il est parfaitement conscient des pratiques de ce fonds?
Il devrait l'être. Et si... Si je veux dire une note positive un peu, le fonds activiste, il est actif. Eh ben, au fonds de pension, au fond aussi, d'être actif et d'avoir une démarche de contrôle de leurs investissements. Et je disais, peut-être pour aborder aussi une note un peu plus positive, l'activisme actionnarial dont on parle ici, il peut aussi avoir de bon côté. On a certains activistes qui vont mettre en avant des résolutions favorables à l'environnement, des résolutions favorables donc aux parties prenantes dont on parlait tout à l'heure. Donc l'activisme, il n'est pas que dans un sens, il n'est pas forcément négatif, il peut aussi être très positif, mais il faut donc que les investisseurs, en tant que propriétaires, prennent leurs responsabilités.
Et pour finir, rappeler aussi, comme je l'évoquais, justement, que ces fonds activistes vont apporter, ils l'apportent à tous, et pas seulement à eux, mais à l'ensemble des actionnaires et, le cas échéant, à la société.
Alors on arrive au terme de cette émission, un dernier mot peut-être effectivement sur le rôle de ces fonds spéculatifs, de ces hedge funds dans l'économie et sur la nécessité, comme on le disait, de mieux les réguler à travers peut-être plus de transparence, plus de communication. Muriel Goldberg-Damont.
Oui, tout à fait. Le dernier point qu'on a peu évoqué, c'est la problématique de la communication des fonds activistes qui ont tendance aujourd'hui à déployer énormément d'informations par des white papers, par la mise en place de sites internet où justement ils remettent en cause directement le management de la société, publient des informations. Et en fait, on a peu de contrôle aujourd'hui sur cette information et notamment sur son exhaustivité, son objectivité. On n'a aucune certitude sur la qualité de l'information qui est donnée et l'émetteur en prend connaissance, je dirais, comme tout autre actionnaire. Et donc la réaction peut être compliquée. C'est ça que le rapport Woerth, notamment, et le dernier rapport du Club des juristes fait valoir pour renforcer et mettre en fait des obligations, d'une certaine manière, à la charge des fonds d'investissement.
Gunther Cappel-Blanquer.
Vous me demandez un dernier mot. Je crois que, bien sûr qu'il faut une réglementation plus importante. Et ça passe par plus de transparence. Mais il faut aussi un changement culturel. Le secteur financier, ça peut pas être un secteur prédateur. Il faut, de plus en plus, il y a des appels en ce sens. Il faut une finance durable, pas une finance prédatrice. Il faut des investisseurs qui s'investissent, mais qui s'investissent pour tous, comme vous le disiez, mais pas pour tous les actionnaires, pour tous véritablement, pour l'entreprise et pour toutes les parties prenantes.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Le budget de la santé sous haute pression en France à la veille d'une manifestation du personnel hospitalier. Le gouvernement affronte aussi l'opposition politique qui réclame plus de moyens ou plus de précisions.
Oui, avec d'abord le coup de force du Sénat, majoritairement Les Républicains, qui a décidé hier de suspendre l'examen du projet de budget pour la sécurité sociale. Les députés LR avaient déjà critiqué un financement pas à la hauteur, je les cite, jugeant le gouvernement responsable du déficit budgétaire de 5,1 milliards d'euros en 2020, puisque 4 milliards proviennent directement des mesures post-gilets jaunes. Mais plus que le déficit, plusieurs dénoncent une perte d'autonomie de la sécurité sociale. Et cette controverse vient effectivement télescoper aujourd'hui la crise des hôpitaux. Le gouvernement était déjà sous pression, mais les hésitations finales d'Agnès Buzyn ce week-end laissent indiquer une possible augmentation des crédits de l'assurance maladie, pour l'instant augmentation limitée à 2,3%, alors que les hospitaliers, eux, avaient déjà demandé 5% de hausse, ce qui, de toute façon, ne suffira pas, prévient Frédéric Bizard. Il est économiste et professeur associé à l'ESCP Europe, président de l'Institut Santé.
Avec une hausse de 2,3, vous avez une hausse de 3,5 milliards du budget, donc on ne peut pas considérer que la nation ne fait pas d'efforts pour la santé. La difficulté est que, dans l'état actuel de notre système, vous avez une hausse qu'on appelle tendancielle, c'est-à-dire que si on ne prend pas des mesures d'économie, qui est de l'ordre de 4,5%, c'est-à-dire de l'ordre de 8 à 9 milliards d'euros. Donc vous avez la différence entre ces 4,5 et les 2,3% que s'apprête à voter le Parlement d'économie à trouver. Mais je crois qu'il faut aller bien plus loin, parce que là on est toujours sur des questions qui sont purement comptables. Il y a un moment, si ce système est en train de craquer, c'est pas parce qu'on ne dépense pas assez. On est le pays européen qui dépense le plus, avec l'Allemagne, de l'ordre de 11 points de PIB pour la santé. Bon, donc on a un vrai problème d'allocation des ressources. Par exemple, à l'hôpital, alors que l'hôpital est le budget le plus important et nos dépenses hospitalières sont parmi les plus élevées au monde. En revanche, il y a une surdépense administrative et il y a un sous-investissement dans les technologies et dans les ressources humaines. Donc on a du personnel hospitalier qui est d'ailleurs soit sous-payé, soit surpayé. Donc oui, il faut à court terme, il va falloir réinjecter des fonds, mais avant de réinjecter ces fonds, il faut se mettre d'accord sur une feuille de route de restructuration du système.
Une restructuration à laquelle appelle aussi aujourd'hui dans une tribune dans les Échos certains professionnels de la santé.
Oui, plus de liberté plutôt que plus de moyens, c'est ce que disent les 5 signataires de cette tribune qui plaident pour une dérégulation en fait accrue du secteur et des droits donc accrus pour les hôpitaux et les collectivités. Il y a eu d'autres solutions qui ont été avancées comme reprendre la dette des hôpitaux, mais plus de dérégulation ou plus d'argent pour Frédéric Bizard. En tout cas, il faudra revoir tout l'équilibre des pouvoirs au sein du système hospitalier depuis la loi Bachelot de 2004.
Un sujet sur lequel on reviendra vendredi dans la table ronde d'actualité économique. On passe au bref. France toujours, une hausse de 2% pour le budget de l'Élysée. Là aussi, c'est la controverse.
Oui, critique d'opacité, insincérité, de grande vie pour un budget de 105 millions d'euros en hausse de 2 millions. Un surcoût lié notamment à la prise en charge par la présidence de la République des dépenses auparavant liées à la protection du chef de l'État qui était payé par le ministère de l'Intérieur. Critique donc effectivement caricaturale, comme répond le gouvernement. Peut-être en tout cas liée au dépit des parlementaires avec un budget du Sénat et de l'Assemblée stable et un dixième de ces budgets devant être complété via les réserves, selon une députée MoDem.
Et on continue avec la France, avec le gouvernement qui cette fois hésite clairement à légiférer sur la question du travail de nuit dans les commerces alimentaires.
Oui, avec, vous l'avez entendu, ce retrait hier d'un article qui devait passer en Conseil des ministres et qui prévoyait d'autoriser les supérettes et supermarchés à ouvrir de 21h à minuit en alignant la réglementation du travail sur celle des discothèques ou des bars de nuit. En fait, devant l'opposition des syndicats qui demandent des conditions équivalentes à celles des ZTI, les zones touristiques internationales, notamment le double salaire, le gouvernement remplace le texte par une concertation de 18 mois.
Et pour finir, direction les États-Unis, une borne dans le champ de la santé high-tech ou une pierre dans le jardin de Google. Le projet Rossignol ne fait pas chanter, il inquiète.
Et oui, Nightingale, c'est le nom de ce partenariat entre Google et Ascension, je le dis en anglais Ascension, un groupe qui gère des dizaines d'hôpitaux aux États-Unis et qui autorisait l'opérateur Internet, qui est également hébergeur de cloud, de données en ligne, à recueillir les dossiers complets à leur insu de millions de patients, selon le Wall Street Journal. Google, qui a déjà des partenariats avec 3 firmes de la santé, plaide la légalité de la procédure, mais l'affaire fait scandale aux États-Unis et une enquête est lancée.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast. I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. 'Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you know. You make it difficult to not overthink. And when I'm with you, I turn all shades of pink. I wanna touch you, but don't wanna be weird. It's such a rush, I'm thinking, wish you were here. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you know. But I could be a crush, I could feel you for a rush, like hoping you text me so I could tell you I've been thinking about your touch, like touch, 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 touch. I could be a crush, 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 crush. I got a fascination with your presentation, making me feel like you're on my island, you're my permanent vacation. Touch, 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 touch. I could be a crush, 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 crush. Sorry. Crush de Tessa Violette. Merci beaucoup Gunther Gappel-Blancard et Muriel Goldberg-Darmon de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, on se glisse dans la peau de Warren Buffett. Comment devient-on l'homme, l'un des hommes les plus riches du monde grâce au marché financier? On en parle avec Yamina Tadjedine et Christophe Boucher. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr ou bien en podcast. Et on vous attend également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. But I could be a crush, I could feel your